moi je suis André de Mbujimayi au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous. Le 14e sommet de la francophonie a vécu lors de l'ouverture de ses assises à Kinshasa. Plusieurs discours avaient été prononcés, touchant notamment la thématique liée à la bonne gouvernance, la démocratie et le droit de l'homme. Parole aux auditeurs vous accorde aujourd'hui la parole dans ce nouveau numéro. Chers auditeurs, la question au centre du débat, que vous inspirent ces différents discours des chefs d'État et des gouvernements qui ont pris part à ce sommet et quel bilan tirez-vous de l'organisation de ce sommet? Composez déjà le 081-890-3315 pour participer à ces débats et faites-nous aussi parvenir vos commentaires à notre courriel pa@radiocapi.net. Tout le plaisir est pour nous de partager près de 57 minutes avec vous. Titi Poutou est à la réalisation, Giro et Lamégie au standard et notre ami Jean-Claude Tiala, voilà, qui est à la Jean-Noël Mokondo, Mehdi, Jean-Noël Mokondo est à la mise en onde sous la supervision de Nicole Ngaka dans cette émission présentée et coordonnée par J.R. Lungebo. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungebo.
Voilà, c'est plutôt Jean-Noël Mokondo qui est à la mise en onde de cette émission et nous avons déjà des réactions de plusieurs auditeurs. Abel Orange, Mwamba, c'est comme ça qu'il s'appelle. Et il nous écrit en disant les bilans est positif vu l'organisation. La délégation congolaise avait bien fait d'élever les sujets de droits de l'homme et pour la démocratie et la bonne gouvernance. L'idée était très bonne afin de comparer les différents résultats qui seront fournis par ces gouvernements francophones au sein de leur pays jusqu'à la prochaine élection. Christophe Matata dit, le bon ami ne doit pas être seulement à la fête, mais aussi au deuil. Espé Olenga, moi, c'est le Tunisien Marzouki qui m'a plus attiré dans sa phrase « Faites la réforme, sinon le peuple a tous les droits de vous y obliger ». Cette phrase a un sens péjoratif, caché à travers elle. Il met en garde les dirigeants et incite le peuple à se réclamer, à réclamer donc ses droits, même par la force, car il a le moyen, le pouvoir. Nous avons le premier auditeur qui est en ligne, qui aimerait bien intervenir et ouvrir ces débats. Maurice, vous êtes à Kinshasa. Bonjour Maurice.
Oui, bonjour J.R.
Voilà, lors de l'ouverture du sommet, du 14e sommet de la francophonie, plusieurs discours avaient été prononcés, touchant notamment à la thématique liée à la bonne gouvernance, la démocratie et les droits de l'homme. Que vous inspirent ces différents discours?
En fait, pour moi, je voudrais vraiment réagir dans le sens de soutenir les différents chefs d'État qui ont fait leurs interventions, soutenant la démocratie, les droits de l'homme. Comme disait Abdou Diouf, c'est vraiment un problème qu'on a ici chez nous en Afrique. Donc le déficit de la démocratie prive l'Afrique d'une place même dans les instances internationales, notamment au Conseil permanent des Nations Unies. Alors, moi je pense que les présidents qui ont fait leurs interventions au niveau de l'hémicycle du Palais du Peuple, il y a eu le président François Hollande, il y a eu le président Marzouki, il y a eu le président Macky Sall, il y a eu aussi le premier ministre là du Canada. Je pense que tout le monde n'a cessé de marteler sur la démocratie, les droits de l'homme, qui sont même gages vraiment de bonne gouvernance. Alors, s'il faut vraiment retenir quelque chose dans ces sommets, c'est vraiment le franc-parler de François Hollande, comme on l'avait suivi dès le départ au niveau de Paris, lors de son point de presse qu'il a tenu avec Ban Ki-moon, où il disait que la situation est tout à fait inacceptable au Congo sur le plan des droits, sur le plan de la démocratie et de la reconnaissance des droits de l'homme, plutôt de l'opposition. Alors, je ne pense pas que François Hollande a dit quelque chose de nouveau, comme beaucoup de gens veulent le dramatiser ici, chez nous. Ce sont des choses qui existent. L'opposition, la société civile, décrit chaque jour qui passe sur ce qui se passe dans notre pays. Alors, aujourd'hui, parce que c'est François Hollande qui le dit, vraiment les gens veulent vraiment nous nous faire comprendre comme s'il y avait vraiment quelque chose de nouveau. Alors, ce que je voudrais encore ajouter dans tout ça, la nouvelle politique de la France, comme l'a dit François Hollande, est basée maintenant sur le rapport égal à égal, sur le respect des droits de l'homme, sur la démocratie, et c'est ça qui doit inspirer maintenant les pays africains, notamment notre pays, à marcher vraiment dans cette voie pour normaliser ses relations avec la France, qui a même posé certaines conditions pour nous aider à finir avec cette guerre. C'est-à-dire, nous devons commencer d'abord à respecter la démocratie, les principes fondamentaux de la démocratie, les droits de l'homme et le respect de l'opposition. Et cela va nous amener maintenant à finir avec la guerre de l'Est.
Voilà, Maurice, vous parlez de discours notamment du président français, et là vous ressortez juste une phrase lorsque il a parlé de rapport égal à égal, l'Europe et l'Afrique, et là vous souhaitez donc vous plaider pour que l'Afrique puisse en profiter au maximum, donc puisse saisir cette occasion pour capitaliser cette allégation du président français. Merci Maurice. Mais vous êtes encore avec nous, Maurice. Oui. Il y a quelque part, même dans les discours du président de l'OIF, Abdou Diouf, qui a parlé de l'Afrique qui doit écrire sa propre histoire, et il a dit, donc juste en début, que cette histoire sera au nord et au sud du Sahara, une histoire de gloire et d'unité. Est-ce que vous avez quand même pu aussi comprendre quelque chose là-dessus?
Oui, je pense que Monsieur Abdou Diouf, s'il a dit, il a compris que ici, chez nous, nous avons la majorité de peuples qui parlent le français, jusqu'à 85%. Je crois, en 2000, je ne sais pas, une projection qui a été faite, que nous serons vraiment la majorité, ici, au niveau de l'Afrique, les gens qui vont parler français. Alors, c'est à ce moment, c'est dans cette ligne d'idées, où il a voulu que nous puissions vraiment cultiver d'abord les valeurs démocratiques sur le respect des droits de l'homme, afin que nous puissions réellement entrer dans cette histoire. C'est pas condamné comme l'autre l'avait dit, son prédécesseur, qui disait que l'homme africain n'est pas encore vraiment mûr pour entrer vraiment dans l'histoire. Mais pour Hollande, au moins, il est franc et très direct dans son discours, où il disait que il fallait d'abord qu'on puisse d'abord mettre à l'avant-plan la démocratie, les droits de l'homme, et le reste, vraiment, ça serait très facile. Donc c'est ainsi qu'il avait même supprimé les ministères de coopération au niveau de la France, ces ministères qui favorisaient les rapports des pseudo-secrets d'État entre les chefs d'État dictateurs africains au détriment des valeurs démocratiques et de respect des droits de l'homme. Et c'est ça qui a constitué même le concept de France-Afrique qu'il a annoncé au niveau de Sénégal, qui devait supprimer et qui n'existe plus au moment où nous sommes en train déjà de parler ici.
Voilà, merci Maurice. Donc nous retenons qu'il est temps que l'Afrique saisisse l'occasion, et surtout par rapport aux propos du président français qui parle du rapport qui doit être désormais égal à égal, et il faudrait que l'Afrique en profite. Et là vous avez donné quelques exemples, hein, notamment qui constituent un signal fort, notamment la suppression du ministère de la coopération au niveau de la France, et qui d'ailleurs enterre ce système de France-Afrique. Merci Maurice. Franck, vous êtes à Vienne. Bonjour Franck.
Oui, bonjour Monsieur Gérard.
Voilà, Franck, c'est plutôt JR. Vous partagez le point de vue de Maurice, qui parle d'ailleurs de l'occasion pour l'Afrique, hein, de se lever, de capitaliser le propos du président français lors de l'ouverture du sommet, du 14e sommet de la francophonie tenu à Kinshasa, qui parlait de rapport qui doit être désormais égal à égal. Est-ce que vous partagez cet avis, Franck?
Oui, je crois que les Africains ne devaient pas attendre ce 14e sommet de la francophonie tenu à Kinshasa pour se rendre compte qu'ils doivent avoir la responsabilité d'écrire certaines pages de leur histoire. Tout ce qu'ils venaient de dire là, on se le dit toujours que le retard de l'Afrique est parfois causé par les Africains eux-mêmes. Puis quand je voyais mes compatriotes congolais s'agiter sur l'arrivée de François Hollande, c'est pas François Hollande qui doit venir travailler à notre place. Il a essayé de dire ce qu'il pouvait dire en tant que chef d'État français. Mais je trouve que la plus grande responsabilité revient aux Africains, aux Congolais. Quant à l'organisation matérielle, j'ai vu ce qui a été fait sur place parce que je viens de rentrer. Bon, je trouve aussi que on ne doit pas distraire le peuple. Hein. Le sommet de la francophonie a été organisé. Mais est-ce que, moi je me pose maintenant la question, est-ce que le peuple de la couche moyenne a été associé à cet événement-là? Quand on nettoie certains acteurs à terre...
Franck, s'il vous plaît.
Les 500, quand le peuple ne suit pas...
Oui, s'il vous plaît, Franck.
Tout le peuple congolais avait accès à ces discours-là? C'est la question que je me pose.
Oui, mais qu'est-ce qu'on peut retenir, selon vous? Parce que là, on s'est dit, on reste un peu dans les thèmes, dans la thématique du jour. Hein. Que vous inspire d'abord ces différents discours des chefs d'État et de gouvernement qui ont pris part à ces sommets?
Oui, mais ce sont des discours. Ce sont des discours intellectuels. Mais si ces discours-là ne sont pas matérialisés au niveau du vécu quotidien, il reste discours. Ce n'est pas pour la première fois que ces discours se tiennent. Ces discours, on les tient toujours. Mais est-ce que le peuple africain est associé toujours à ce genre de discours? C'est la question que je peux me poser.
Alors, quel est ce discours qui a été vraiment à marge ou peut-être qui est très loin de la réalité du vécu quotidien, du vécu des peuples?
Oui, il y en a eu. Hein. Moi, je crois que le président tunisien a été pour moi l'homme par excellence, et Abdou Diouf aussi. Bon, les chefs d'État français. Et le premier ministre canadien, ils ont quand même essayé de frôler la situation. Mais les autres, ils ont parlé. Mais est-ce que le peuple se retrouve à travers ces spéculations? C'est la question que je me pose.
Oui, parce que Franck, vous avez suivi comme nous. Si nous reprenons d'ailleurs quelques phrases du président de l'OIF qui disait ce rendez-vous doit être considéré comme rendez-vous de la solidarité si souvent manqué avec nos frères et nos sœurs de l'Afrique centrale et de la région des Grands Lacs. N'est-ce pas là une occasion qui était une occasion aussi de parler des problèmes qui concernent la sous-région et la région?
Oui, je peux concéder, mais encore faut-il que cela puisse être concrétisé. Le discours a été tenu samedi et dimanche, mais la vie continue. Je crois qu'on peut évaluer 4-6 mois après, tout de suite là, 2 jours après la tenue de ce sommet. Je ne crois pas que ce discours-là s'est déjà matérialisé en acte. C'est ce que je dis. Il faut qu'on voit un peu comment tous ces discours sont matérialisés. Mais si ce discours reste seulement à cet état abstrait, c'est là où je me dis qu'est-ce que cela apporte au niveau du vécu quotidien. Je me situe à ce niveau-là. Les discours, nous les avons suivis. Mais est-ce que ces discours vont se transformer en actes? C'est la question que je me pose.
Voilà, merci Franck. Clément, vous êtes en Boujimaï. Bonjour.
Oui, bonjour.
Comment vous réagissez par rapport aux propos de tout à l'heure de Maurice qui parle des discours très éloquents, et il a retenu d'ailleurs quelque chose sur ce qu'a dit le président français quant au rapport égal-égal qui va normalement définir la coopération nord-sud, et Franck qui insiste également sur certains aspects, notamment les vécus quotidiens. C'est beau les discours, mais dans l'ensemble, malgré que les discours ont mis aussi l'accent, hein, les discours prononcés ont mis l'accent sur les vécus quotidiens de la population, mais il reste que cela soit matérialisé. Comment vous réagissez-vous personnellement, Clément?
Oui, je voudrais d'abord revenir à la francophonie en RDC pour dire que la francophonie est une réussite et une fierté, mais une réussite et une fierté un peu tardive pour un grand pays comme la RDC. C'est-à-dire qu'après 42 ans de la naissance de la francophonie, quand un deuxième fils de la francophonie, un géant même de la langue française, parvient à organiser le sommet au 14e. Ben, mieux vaut tard que jamais, dit-on. Mais nous avons réalisé. Revenons maintenant aux différents discours. Dans ma petite compréhension, je voudrais dire que la francophonie ne constitue pas un atout, un enjeu linguistique, comme certains peuvent le penser. Mais ce qui est vrai est que les discours sont beaucoup plus éloquents. Les discours sont beaucoup plus fouillés. Ce sont les vécus quotidiens et ce que nous connaissons. Donc tout le monde connaît ça. Mais la grande préoccupation que je me pose est que, est-ce que ces gens-là, ces autorités francophones, parviendront-ils à concrétiser le rêve de leur discours en RDC? Voilà la grande préoccupation. Et la deuxième préoccupation est que nous sommes un pays francophone. La grande préoccupation est que les produits que nous recevons de l'extérieur, de la Chine, des autres pays, ne sont qu'en français et en chinois. Qu'est-ce que la communauté francophone est en train de faire? Qu'est-ce que la communauté francophone envisage pour ça? Il n'y a que certains différents produits qui sont écrits en français. Voilà, nous sommes en train de perdre la culture francophone en RDC. Et ils sont là en train de regarder, en train de prononcer de bons discours. Donc nous sommes en train d'attendre une concrétisation.
Oui, Clément, s'il vous plaît. Est-ce que ne pensez-vous pas que la plupart de ces discours c'est constituent quand même des interpellations, des conseils et des partages d'expériences? C'est vrai que ça reste au peuple congolais. Et nous qui avons eu la chance d'organiser ces sommets, et de passer maintenant à l'application ou à prendre, il y a des conseils à prendre ou à laisser. Mais voilà, je crois, vous avez dit, Macky Sall, le président Macky Sall a fait un discours qui a constitué d'ailleurs le partage d'expériences pour dire, ben voilà, la démocratie au Sénégal a failli être vraiment à sa dérive. Mais Dieu merci, ils se sont dépassés.
Oui, j'ai dit que la francophonie est un partage, une initiative pour le développement de l'Afrique. C'est en Afrique qu'il y a la vie même de la francophonie. C'est-à-dire que la communauté francophone est obligée de promouvoir la francophonie en Afrique pour le développement de ce berceau de l'humanité. C'est ça un peu la grande préoccupation. Donc, le Sénégal a démontré une démocratie. Mais il faudrait que les peuples africains aussi, francophones, parviennent à comprendre cette histoire-là et que nous puissions promouvoir ensemble avec eux. Parce que la France a un droit de veto aux Nations Unies. Mais il faudrait qu'il s'impose aussi par son veto pour faire valoir le développement en RDC.
Voilà, merci Clément. Vous avez aussi un point de vue à émettre au cours de cette émission. N'hésitez pas, faites-nous parvenir vos commentaires à pa@radiocapi.net ou carrément composez les 081 890 6315.
Radio Okapi unit le Congo avec vous au centre de ses activités. Vos problèmes, vos avis, vos pistes de solutions sont l'objet de notre émission Parole aux auditeurs. Où que vous soyez, Parole aux auditeurs vous donne la parole. De lundi à vendredi de 11h à midi, heure de Kinshasa, et le mercredi de 10 à 11h, vous avez 60 minutes pour donner votre avis sur les sujets du jour. Dans Parole aux auditeurs, c'est vous qui faites l'action. Alors, on retient, de lundi à vendredi de 11 à 12h, et mercredi dès 10h, heure de Kinshasa.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons en ligne professeur Félicien Kabamba, chercheur au Centre d'études politiques de l'UNIKIN, l'Université de Kinshasa. Bonjour professeur.
Bonjour.
Alors vous venez de suivre les auditeurs, en tout cas les uns et les autres, qui ont émis quelques points de vue par rapport aux différents discours prononcés lors du 14e sommet de la francophonie. D'entrée des jeux, est-ce que tous ces discours peuvent être considérés aujourd'hui comme des interpellations?
Oui, disons que tous les discours n'allaient pas dans le même sens. Il y a des discours qui ont retenu l'attention des auditeurs. Il y a d'autres qui ont évoqué des aspects uniquement linguistiques. Mais il faut signaler que beaucoup des discours sont revenus sur la question des démocraties et des droits de l'homme. Ce qui est vrai, c'est que le sommet de la francophonie à Kinshasa se tient après ce qu'on appelle en fait le printemps arabe. Et donc, on a vu que dans le pays arabe, il y a une grande aspiration à la liberté, à la démocratie, qui s'est traduite par une contestation de pouvoir en place. Et donc, nul ne doutait que le sommet de la francophonie à Kinshasa allait être dominé par des questions de démocratie et des droits de l'homme. Ainsi, même le président français, François Hollande, il a prononcé une phrase qui me semble assez claire pour lui. Parler français, c'est parler droit de l'homme. C'est parler démocratie. Ça, c'est une phrase qui résume tout. C'est qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui dans le pays arabe ne peut laisser les francophones indifférents. Et donc, il fallait absolument que la question des droits de l'homme, la question des démocraties, revienne évidemment au centre du débat autour de la francophonie. Alors, tout le débat là, c'est que, mais oui, on va parler droit de l'homme, on va parler démocratie. Mais le sommet lui-même, c'était un RDC. Un RDC qui a depuis un certain temps, qui est dans le collimateur, notamment des organisations des droits de l'homme, qui l'accusent de violation des droits de l'homme, et la RDC qui a un déficit démocratique, si évidemment on considère les différents paramètres de la démocratie. C'est là que l'un des grands débats était là, et on a suivi qu'il y avait un écart des discours, notamment des discours prononcés par le chef de l'État congolais, et par exemple les discours prononcés par le chef d'État français. Et donc, plutôt que de mettre le débat de la démocratie pour dire, voilà, c'est vrai que les différents pays ont toujours un déficit, mais chacun a son degré de démocratie, et qu'en fait, chacun des pays pourra prendre conscience du retard qu'il a et des efforts futurs qu'il devra conjuguer, on a eu l'impression que, évidemment, il y a eu un jeu de ping-pong qui, finalement, a marqué les travaux de la francophonie. Ce qui est vrai, c'est que le discours du président tunisien qui est président d'un pays qui vient d'une révolution pour la démocratie, eh bien, ce discours a marqué les esprits parce qu'on a senti en lui, on a senti dans son discours un accent réformiste très prononcé, de sorte qu'il avait un discours interpellateur pour les autres dirigeants. Et ça, il faut le dire, ça a marqué véritablement les esprits.
Oui, professeur, en scrutant les discours du président Kabila, il a été dit quelque part, c'est en prenant en compte les préoccupations présentes et à venir de nos États que la République démocratique du Congo a recommandé que nos échanges à l'occasion du présent sommet s'articulent autour du thème francophonie, enjeux environnementaux et économiques face à la bonne gouvernance, à la gouvernance mondiale. Ben alors, on a assisté à 80% pratiquement de discours qui ont tourné autour de la démocratie et le respect des droits de l'homme. Et que vous inspire, vous, de cette façon de pouvoir s'écarter, en tout cas largement, de cette recommandation de la République démocratique du Congo qui organisait le 14e sommet?
Bon, il faut dire qu'il y a eu un grand débat autour de l'organisation ou non du sommet à Kinshasa, en raison évidemment des accusations qui viennent de toutes parts, et notamment des organisations de droits de l'homme, sur la question des droits de l'homme et de la démocratie dans le pays. Et je crois, finalement, la décision a été prise d'organiser la réunion, de maintenir l'organisation à Kinshasa, mais que de toutes les façons, s'il y a des problèmes des droits de l'homme, on en parlera au cours de cette rencontre. Mais il faut aussi savoir que quand on parle gouvernance, il y a dans la gouvernance une grande dimension de démocratie, il y a une grande dimension de droits de l'homme. On ne peut pas parler de la gouvernance et mettre de côté les questions de démocratie et de droits de l'homme. Donc, dire qu'on va parler de gouvernance et pouvoir écarter de la gouvernance des questions touchant aux démocraties serait aussi une grosse erreur.
Ernest est à Matadi et Josué est à Bounia. Merci de nous rejoindre, Ernest. Bonjour.
Bonjour, JS.
Ernest, vous avez suivi vos prédécesseurs qui ont d'abord salué l'organisation de ce sommet, hein, qui, selon eux, c'était quand même une réussite. Mais quant au discours, parce que c'est le thème que nous abordons aujourd'hui, que vous inspirent ces différents discours des chefs d'État et des gouvernements qui ont pris part à ce sommet? Qu'est-ce que vous réagissez, vous, Ernest?
Merci bien. Je commence par retenir le discours du président tunisien, sortant d'une révolution tempête, a interpellé le gouvernement congolais, qui parfois empiète, refuse que le peuple congolais manifeste et réalise son destin. C'est une interpellation terrible que les autorités qui étaient rouges de couleur en entendant ces gens. Lorsque le président sénégalais a parlé, le deuxième jour, parlant des questions aux journalistes, il dit, on lui a posé la question de savoir qu'est-ce qu'il a retenu de cette organisation. Il a dit que c'est l'organisation, l'accueil et tout. Mais comme le Sénégal aura organisé ça, ça ne sera pas dans la folie, parce qu'il y a l'exigence de la bonne gouvernance. C'est qu'il a constaté la folie dans l'organisation, peut-être dans les dépenses. Ça, c'est une interprétation. Lorsque le président Hollande insiste sur le droit de l'homme, bonne gouvernance, démocratie, ça ne gêne pas l'autorité congolaise de constater que l'action des droits de l'homme, l'affaire Tshebeya, jusqu'à ce jour, n'a pas de solution et le gouvernement ne force pas notre pouvoir clair, la vérité, là-dessus. Cela signifie qu'il y a un problème lorsqu'on répond à ce genre de discours de haut niveau, que les Congolais n'étaient pas complexés. qui faisait la démocratie à la congolaise de sa manière. C'est vraiment ridicule.
Donc Ernest, s'il vous plaît. Donc vous souhaitez qu'il y ait un répondant par rapport à tous ces discours, par rapport au discours appelant à la démocratie, au respect des droits de l'homme et également à la bonne gouvernance. Il faut un répondant. Il faut que la RDC puisse montrer sa bonne foi, de pouvoir aller vers la démocratie.
Oui, la démocratie, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas sur papier. Ce n'est pas en disant que nous avons des médias, de l'opposition et ça, la démocratie. C'est le vécu quotidien de la population. Comment nous interprétons, comment nous nous réalisons à atteindre notre démocratie? C'est ce qui a manqué. Et peut-être que aussi on n'a pas démontré le 13e sommet. Quelles sont les avancées pour évaluer? On nous a sommé le discours qu'on a entendu, mais on a poignardé la République dans le sens que tout ce qui se passe depuis les élections, depuis les guerres, ainsi de suite, on n'a pas trouvé, au nom de la démocratie, de la bonne gouvernance, du droit de l'homme, de se retrouver ensemble et regarder dans le même sens. C'est ce qui a manqué comme rendez-vous dans ce sommet qu'on a organisé. L'organisation dans l'ensemble, l'habillement de Kinshasa, c'est en partie parce que tous les corps de Kinshasa n'ont pas repeint, on n'a pas habillé les mêmes robes. Donc, nous avons attiré beaucoup de leçons sur tous les discours, au lieu d'induire le président de la République en erreur par des discours parallèles qui sont parfois contraires à la société. On avait peur. Qu'est-ce que François Hollande allait dire ici? Heureusement, il a été pondéré, mais il a dit la vérité. Je crois que si à sa place, j'aurais la main droite au cœur.
Voilà, merci Ernest, merci d'avoir appelé et aussi merci de nous avoir apporté cette contribution. Josué, vous êtes à Bounia. Bonjour Josué.
Bonjour JR.
Voilà, vous partagez le même point de vue que votre prédécesseur Ernest qui nous a appelé?
Oui, écoutez, je pense que Ernest a pas beaucoup de voir les choses. Mais pour tous les cas, je commencerai par amplifier en tant que l'état général le sommet tel a été organisé. Je commencerai par amplifier d'abord sur le cas en forme des organisationnels du sommet même. Je crois que là, il n'y a pas de choses à réfléchir. Je voudrais juste attaquer sur le discours du président Fratello qui a évoqué la question de la démocratie et du droit de l'homme en RDC. Et la réaction du gouvernement congolais ne m'a pas pu au point de presse accorder en les images passées par le chef de l'État lorsqu'il dit que la RDC n'est pas du tout complexe sur la question de la démocratie et de la bonne gouvernance. Moi, je pense que ça, c'est une mauvaise façon de parler. Je pense que lorsque le président français a parlé de la démocratie, il n'a pas nié qu'il y ait la démocratie. Il a seulement dit qu'il y a des choses qu'il faut améliorer. Il faut reconnaître cela. Il n'a pas dit que la RDC est complexée devant la situation de la démocratie, tout est droit de l'homme. Mais il a seulement dit qu'il faut mettre un peu de rigueur pour faire avancer les choses. Moi, je pense que c'est ce qui m'a été
Oui, Josué. Josué. Oui, selon vous, donc pour vous, ces discours étaient quand même interpellateurs. Donc il fallait acquiescer, il fallait accepter.
Oui, le discours est interpellant. Je crois que le président français a affirmé, il a reconnu la qualité même de la démocratie congolaise. Mais il avait seulement dit qu'il faut mettre un peu de rigueur. Ça, c'est ma façon d'interpréter ce discours-là. Il faut mettre des rigueur pour faire avancer les choses. Mais j'ai été tellement étonné par la réaction du gouvernement congolais lorsque le chef de l'État dit que la RDC n'est pas du tout complexée sur la situation de la démocratie des droits de l'homme. Ça, ce n'est pas une étation qu'avait le président français dans son langue.
Voilà, merci Josué. Nous prenons également la réaction de Galvani Tiouk qui nous a écrit de Mbujimaï, qui dit nous avons assisté à des beaux discours, surtout celui du président tunisien qui a parlé et vanté le dynamisme de son peuple, celui du président sénégalais qui a loué la démocratie de son pays, celui de M. François Hollande qui était sans tabou en ce qui concerne le bilan. La RDC s'en est sortie avec une résolution concernant l'insécurité à l'est du pays et l'engagement de François Hollande d'user de son influence au Conseil de l'ONU pour le renforcement du mandat de la MONUSCO. Voilà, donc je crois que nous allons avoir un peu d'éclairage avec notre invité qui est en ligne, professeur Félicien Kabamba. Vous êtes avec nous. Comment vous réagissez par rapport aux réactions des uns et des autres?
Non, mais ce sont des réactions qui sont normales. Je trouve également assez pointu. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que au niveau de la RDC, le sommet de la francophonie intervient à un moment où le pays connaît une guerre qui ravage pratiquement tout l'est du pays. Et d'un point de vue stratégique, le sommet avait été l'occasion pour la République démocratique du Congo de mettre au cœur de la francophonie la crise à l'est du pays, et donc d'utiliser ce créneau-là pour faire pression sur la communauté internationale, et en particulier sur le Rwanda, pour qu'il cesse évidemment de soutenir le M23. Et de ce point de vue, organiser un sommet de la francophonie était un moment crucial pour la RDC. Mais il m'a semblé que au cours de cette rencontre, plutôt que de faire un centrage sur la question de l'Est, il s'agit plutôt de la question des droits de l'homme et de la question des démocraties qui ont dominé les débats. Et ça, véritablement, la République démocratique du Congo a manqué, de mon point de vue, une occasion historique pour avancer sur le plan de la diplomatie. Alors, on a pu voir que des discours extrêmement importants, des discours assez retentissants ont été prononcés. Si ces discours étaient dirigés vers la situation de l'Est du pays, je crois que sur le plan de la diplomatie, on aurait beaucoup gagné. Mais on a pu remarquer que c'est plutôt des questions des droits de l'homme et des questions de démocratie. Et ça, je crois que il y a eu probablement cet incident qui a eu lieu au moment où, avant la tenue de cette rencontre, les discours prononcés par le président
français,
François Hollande en France, qui a tout de suite été suivi par une réaction du gouvernement. Ces discours avaient déjà, donc cette action-réaction avait déjà empoisonné le climat, et donc voilà que on a carrément loupé une occasion historique de mettre pression et de trouver des solutions assez durables à la crise de l'Est. Bon, pour le reste, il faut dire que tous les peuples du monde ont soif de démocratie, tous les peuples du monde veulent la liberté, et il est très difficile de brimer la liberté. Il faut absolument que la liberté soit le socle de toute démocratie. Alors, de là, il faut également contextualiser la situation du pays, qui est un pays qui est en proie à une guerre, un pays qui sort évidemment de conflits armés et qui n'a pas réussi à stabiliser la situation. Et donc, il y a beaucoup de poches d'insécurité, il y a beaucoup de désordre. Et pour mettre un peu d'ordre dans ce pays, je crois qu'on a aussi besoin d'un État fort. Un État fort qui est à mesure de mettre le pays sur, évidemment, donc dans l'avion du développement. Et avoir un État fort, ce n'est pas avoir des individus forts, mais c'est avoir des institutions fortes. Et pour avoir des institutions fortes, je crois que le pays doit se doter de règles qu'il respecte et qu'il obéit.
Voilà, Charles Takisangani et Maître Moïse Agoma. Charles, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Voilà, Charles, vous nous avez suivi depuis le début de cette émission. Vous avez souhaité également réagir par rapport à ces sujets. Nous l'avons dit en début, lors de l'ouverture du 14e sommet de la francophonie, plusieurs discours avaient été prononcés, touchant notamment la thématique liée à la bonne gouvernance, la démocratie et le droit de l'homme. Alors, que vous inspire ces différents discours?
Ok, merci beaucoup pour mon intervention. Je voudrais quand même placer un petit mot par rapport à tout ce qui est arrivé sur le 14e sommet de la francophonie en RDC. Mais moi, je pense plutôt que bon, il y avait de très beaux discours de tous nos chefs d'État, tout ça, c'était bien beau. Mais moi, je pense que par rapport à notre pays, il se pose encore des petits problèmes liés à la bonne gouvernance, lié aussi à, surtout à l'aspect social. Imaginez un peu, moi je vais donner un exemple. Tout ce qui a été comme investissement pour organiser le sommet de la francophonie, ce sont des milliers de dollars. C'est très bien beau. Mais, quelque part, moi je pense plutôt qu'on peut aussi tenir compte de l'aspect social de la population. Je donne un exemple, c'est du Sénégal. Jusqu'à aujourd'hui, on garde des policiers là, des ronds-points. Bon. Ils sont là pour de quoi? Mais la francophonie, c'est fini. Est-ce qu'il y aurait aussi des désirs d'examiner parce qu'il y a le son de la francophonie? Je ne pense pas. Mais je pense plutôt qu'on pouvait bien voir l'aspect des choses. La bonne gouvernance, surtout, parce que qui dit bonne gouvernance, on voit aussi le niveau de vie de la population. Ils ont dû s'exploiter, tout est passé à la télé, c'est bien, mais et cette population, pauvre population. Et les jeunes gens qui n'ont même pas d'emploi. Et les Français nous apportent quoi aujourd'hui? Tout le monde est presque tourné vers l'anglais. Tous les produits manufacturés aujourd'hui qu'on essaie de vendre partout, soit c'est en chinois, soit c'est en anglais.
Oui, Charles.
Quand vous voyez bien.
Oui, Charles, s'il vous plaît, oui. selon une certaine opinion, hein, de, tous ces discours et l'organisation même de la francophonie, c'était une occasion pour nous de nous réveiller, de réveiller les Congolais sur certaines questions, notamment la démocratie, le respect des droits de l'homme et aussi la bonne gouvernance. Voilà. Est-ce que vous ne partagez pas le point de vue de ceux qui soutiennent cette opinion?
Oui.
Et qu'il met, c'est maintenant ou jamais qu'il faut se réveiller.
Un éveil, parce que les discours de François Hollande, par exemple, le président français, c'est un éveil. Il avait promis qu'il dira ce qu'il dit de l'autre côté, il va le dire à Kinshasa. Il a fait, moi je pense qu'il se situe au antipode du discours du chef de l'État, Joseph Kabila. Il se situe au antipode. Je pense qu'il y a un contraste total entre les deux discours.
Mais voilà, parce que de part et d'autre, il y a eu des engagements. Si nous scrutons encore le discours du président Kabila qui dit nous avons l'engagement, donc c'est depuis 1886, soit plus d'un siècle, que la langue française est pratiquée sur notre territoire national. Elle est à côté des nombreuses langues de chez nous, expressions, et un peu plus loin, il dit par-delà la promotion de la langue et de la défense de la diversité culturelle, l'humanisme et la tolérance, l'état de droit et la démocratie sont en effet substantiel de la francophonie. Et donc c'est comme pour dire, une fois encore, le président congolais est revenu aussi, il a partagé le point de vue de ses homologues quant à la démocratie, au respect des droits de l'homme et aussi de la bonne gouvernance.
Bon, moi je pense que je pourrais vous poser la question, bon, après, ensemble avec tous les autres auditeurs, moi je pose la question, mais est-ce que cette démocratie, dans cette démocratie, il y a la liberté d'expression? Imaginez ce qui est arrivé à notre ami Chemé à Kinshasa et son chauffeur Bazana. Mais est-ce que peut-on parler de la démocratie, de la liberté d'expression et tout ça? Et c'est ça la bonne gouvernance aussi.
Voilà, voyons peut-être après le 14e sommet, comme l'a dit un de vos prédécesseurs, hein, pour voir le retombé de ce 14e sommet, pour qu'on ne reste pas dans le discours. Merci Charles d'avoir appelé. Maître okay. Moïse, vous êtes à Goma. Bonjour maître.
Bonjour, Gilles.
Voilà, Maître Moïse, vous avez suivi vos prédécesseurs. Est-ce que vous êtes favorable, comme l'ont dit avant, que l'organisation c'était une réussite totale, mais du moins au niveau des discours, il y a encore des discours qui constituent aujourd'hui des discours interpellateurs, et aussi des discours qui ont constitué un partage d'expérience et qu'il faille la République démocratique du Congo de capitaliser.
Oui, merci Julien. Je crois que non, je vais donner ma contribution par rapport à ce que les autres ont dit, et également concernant les discours qui ont été prononcés lors de cette cérémonie d'ouverture de la francophonie. Je crois que moi j'ai été piqué par trois discours. Le premier discours, c'est le discours du président Marzouki de Tunisie. Le président Marzouki, tout en commençant d'abord, il a voulu montrer aux Congolais que non, le Congo à une certaine période avait déjà pris l'élan de la démocratie, mais aussi de l'état de droit, hein, donc l'état où on respecte les droits de l'homme dans son état. Hein. Je crois qu'il s'est référé à M.
Emery Mumba.
Cela devrait interpeller les Congolais que non, à une certaine période dans notre pays, on avait déjà pris l'élan de la démocratie, mais aussi le respect des droits de l'homme. Le deuxième discours, c'est le discours du président sénégalais Macky Sall, qui nous a interpellé que non, la démocratie est aussi le consensus entre le peuple. Ce n'est pas ce qui se passe à Kinshasa au Parlement, un groupe de députés qui s'arrange à être majoritaire et ils imposent leur volonté à toute une nation. Je crois que non, ce n'est pas ça la démocratie, c'est ce que le président Macky Sall voulait nous dire autrement. Et le troisième discours, c'était le discours du président Hollande. Bon, ça, c'était un discours déjà entendu, puisque avant qu'il n'arrive à Kinshasa, il avait déjà dit ça plusieurs fois en France, et même quand il est arrivé au Sénégal, il a encore répété la même chose. Donc, sincèrement, nous devons être interpellés par rapport à ce que les autres nous ont dit lors de l'ouverture de cette semaine. Mais ce sont déjà des discours que les Congolais eux-mêmes les disent, puisque vous êtes témoin que nous, dans notre pays, nous avons toujours décrié le manque de la démocratie, le manque de la bonne gouvernance, on ne respecte pas les droits de la population, tout ça, nous avons toujours décrié. Mais c'est bon comme chefs d'État sont venus nous dire ça à Kinshasa, peut-être que nous, ça aura quand même des changements. Mais je n'ai pas été content également du discours que le chef de l'État congolais a tenu, le président Joseph Kabila, lorsque lui, il semble montrer au monde que non, nous sommes vraiment dans l'élan de la démocratie, puisqu'on ne fait pas apprendre la démocratie de gauche à droite. Non, le président doit comprendre et il doit s'humilier que non, effectivement, au Congo, il n'y a pas la démocratie et on ne respecte pas les droits de l'homme. Lorsqu'il évoque la question de l'Est, de la République démocratique du Congo, vous savez le problème des Congolais, nous voulons attendre ce qui se passe. Nous avons toujours dit que non, le pays est agressé et le pays est agressé par le Rwanda. Mais le chef de l'État, lui qui est notre représentant, lui qui est notre bouche, il évite de citer le Rwanda, que non, le Rwanda a agressé le Congo. Et il dit tout simplement, oh non, un groupe, je ne sais pas de qui, alors que non, le pays est agressé. Et il fallait attendre que Hollande nous dise que non, bon, ça va, le pays est agressé par un pays étranger. Je crois que non, c'est une situation qui n'arrange pas. Mais aussi la question des droits de l'homme. Il ne doit pas se fouiller en disant que, oh non, c'est seulement à l'Est où il y a des violations des droits de l'homme. Non, mais TBA a été tué à Kinshasa. Il n'a pas été tué à l'Est ici. Ok, Tungulu a été tué à Kinshasa. Il n'a pas été tué à l'Est. Donc, je crois que non, lorsqu'on dit des droits de l'homme, on ne peut pas se fouiller par rapport à la guerre qui se passe à l'Est. Les droits de l'homme, c'est dans toute la République où on ne respecte pas les droits de l'homme. Voilà ce que moi je voulais donner comme commande.
Merci Maître Moïse d'avoir appelé de Goma. Nous prenons le docteur Marcel Abandonouville. Docteur Marcel.
Oui, bonjour mon cher GR et bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Allez-y docteur.
Bon, merci beaucoup pour la parole. Moi j'aimerais saluer vraiment la présence dans notre pays du président tunisien, qui nous a beaucoup émerveillés par rapport à ses propos. Donc, il a même dit, il l'a souligné dans ses tribunaux, en disant que si le printemps arabe envoie un message à tous les dirigeants de l'Afrique, ou en particulier les dirigeants de la francophonie, du zone francophone, s'il ne fasse pas des réformes en bonne et due forme, c'est le peuple lui-même qui va les obliger. Donc moi, je crois que c'était un discours révolutionnaire. Ça nous a interpellés à beaucoup de choses. Parce qu'on ne comprend rien, on tourne en rond avec des ironies politiques, des discours un peu erronés par rapport à la réalité. On a toujours l'habitude de parler le peuple congolais. Mais qu'est-ce que le peuple a dit? Qu'est-ce que le peuple a dit? Non, il faut pas se cacher derrière le peuple. Il faut mettre la part des choses sur la table. Voir la situation de la démocratie. Soi-disant qu'il est respecté. Mais non, c'est tout à fait normal qu'on le dise comme ça par rapport à préserver la diplomatie, la politique du pays. Mais bon, sur le plan réel, on a des opposants à Kinshasa qui sont séquestrés. Ils sont survenus.
Oui, donc Marcel, selon vous, ce sont des discours qui reflètent quand même la réalité du Congolais, comme l'a dit votre prédécesseur. C'est des discours déjà entendus, c'est ce qui s'est dit dans le milieu des Congolais. Et c'est pas nouveau, mais c'est bon quand ça vient quand même d'une autre personne, un regard extérieur, c'est quand même une valeur ajoutée.
Bon, en fait, c'est une valeur ajoutée. Ça, c'est tout à fait normal. On ne peut pas, dans toutes les façons, on ne peut pas tout nier en bloc ou rejeter. Donc, ce qui a été quand même
bon, c'était l'organisation, malgré tout ça a coûté des milliers de dollars. Donc voilà, l'organisation a permis quand même au Congo de faire entendre sa voix, de se faire montrer de quoi il est capable, peut-être d'organiser des rencontres de grandes envergures. Ça, c'est tout à fait normal. Mais est-ce que ce qui a été dit, et même j'aimerais avancer un peu plus par rapport à la conférence de presse, le président de la République a répliqué ça, disant que le Congo n'est pas complexé, et il a même évité de parler d'un procès qui était en cours.
Oui, donc, bon,
la ministre française chargée à la francophonie, qui a dit, bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Si le Congo accélère un peu, ou augmente un peu sa capacité de bonne gouvernance par rapport à la démocratie et aux droits de l'homme, ça serait un grand pays. Donc la France est restée stéréotypée, inerte par rapport à des réactions de nos dirigeants. C'est lamentable, monsieur Gilles.
Voilà, Merci beaucoup, docteur Marcel, d'avoir appelé à Bandounouville. Albert, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour, c'est monsieur Albert à Kananga.
Voilà, Albert, vous avez suivi les uns et les autres, hein, qui vous ont précédé d'ailleurs, et dans la thématique liée à la bonne gouvernance, la démocratie et les droits de l'homme, qui a pratiquement résumé plusieurs discours prononcés lors du 14e sommet de la francophonie. Que vous inspire particulièrement ces différents discours?
Merci bien, monsieur J.R. Je suis d'abord content que l'on puisse avoir jeté beaucoup de fleurs, trop de fleurs à la radio Capi. C'est parce que le monde entier sera l'évidence que au moins au Congo, il y a quelque part une radio qui peut avoir le courage de parler, le courage de donner la parole aux gens. Pour cela, Monsieur J.R., je vous jette aussi les fleurs parce que il y a certains de vos collègues, tout ça nous avons suivi, qui courait derrière vous pour dire « Non, je félicite. » Mais entendre tous les autres intervenants, personne n'a fait allusion à ça. Ça, c'est de un.
De deux, ça va droit au cœur.
Je vais vous dire que je suis mécontent de ce que le président de la République a tenu comme discours. Vraiment rien. Et ça devant le peuple congolais. Or, moi, je vous dis que on a toujours dit, et on dit dans notre langue, du coin, Mwanabwebe Wabwamba Bikole. Donc, M. Kabila a eu l'occasion de pouvoir peut-être soit se refaire ou reconnaître ses torts et tout et tout. Mais maintenant, quand tu dois te tenir devant ses pairs pour dire au Congo il y a la démocratie, au Congo il y a les droits de l'homme, au Congo, vous vous rendez compte qu'il se moque de qui? Et ça, ça fait mal au cœur. Tous les autres discours, ok, nous avons compris. Et François Hollande, on n'attendait pas de nouveau de lui, parce que il est un président souverain dans un pays où il dirige, il commande. Mais maintenant, ici chez nous, nous nous rendons compte que, au lieu que notre chef de l'État puisse peser de tout son poids, pour maintenant convaincre, puisse-t-il par un petit exemple, et parler de M. Kagame, et dire exactement ce qu'il y a eu et tout dans ces discours-là.
Oui, Albert, Albert, s'il vous plaît, est-ce que vous avez à l'esprit, ne fût-ce qu'une phrase du discours du président Kabila?
Oui, il a dit que pour le plan, sur le plan de la démocratie, par exemple, nous sommes très avancés, rien ne pouvait être...
Vous êtes renseigné. Je vous donne une phrase.
On tout ça,
oui,
et on arrête et on fait.
Voilà, Albert, moi je vous donne une phrase. Oui, allez-y, Albert.
Vous... J'étais sur la rue comme une peuple, je ne sais pas, une bête écrasée et tout et tout.
Voilà, Albert, s'il vous plaît. S'il vous plaît,
donc,
Albert.
C'est le droit de l'homme.
S'il vous plaît,
et
Albert. Voilà, s'il vous plaît, Albert. Si quand le chef de l'État dit, par exemple, ce n'est que depuis un peu plus de 10 ans que la République démocratique du Congo s'est engagée dans la voie du rétablissement et de la consolidation de la paix, de la restauration de l'autorité de l'État, de la démocratisation de l'espace politique et de la relance de son économie. N'est-ce pas là un discours qui prouve à suffisance qu'il y a quand même une volonté de pouvoir faire quelque chose, de pouvoir amener le pays vers une démocratie réelle.
Mais oui, merci M. J.R. Mais maintenant, qu'est-ce que vous pouvez maintenant retenir quand il dit qui a commencé la démocratie, qui a tué la démocratie, tout. Des choses comme ça, là, devaient être dites devant les pères dans ce sens-là. Et en disant ça, on reconnaît ses faiblesses ou on accepte qu'on est victorieux.
Voilà, merci beaucoup Albert d'avoir appelé. Nous rappelons encore à nos auditeurs et surtout à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre qui peuvent également nous faire parvenir les réactions à pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-800 par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Professeur Félicien Kabamba, vous êtes chercheur au Centre d'études politiques de l'UNIKIN, Université de Kinshasa. Vous êtes notre invité. Vous avez suivi la deuxième série des auditeurs. Hein, une deuxième série des auditeurs. Nous retenons simplement qu'en comparant les discours, le peuple congolais attendait un discours, en tout cas, du président congolais, plus que celui qui a été prononcé.
Oui, disons que quand vous écoutez les différents auditeurs, les différents Congolais qui ont suivi tous les discours, vous sentez qu'ils prennent pratiquement leur distance vis-à-vis du discours de Kinshasa. Et là, c'est une leçon à tirer. En fait, c'est que il semble bien que le discours prononcé par le gouvernement de Kinshasa n'était pas un discours adressé au peuple congolais. Parce qu'en fait, quand un discours est adressé au peuple congolais, il est malaxé, il est conçu de manière à gagner l'opinion publique congolaise. Mais là, il me semble que c'était un discours qui était plutôt destiné à l'extérieur. Et de ce point de vue, ce discours n'a pas rencontré les attentes des populations congolaises, et ça, c'est véritablement regrettable. Mais il faut aussi dire que sur le plan de la démocratie, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas du tout de démocratie, mais on peut plutôt parler qu'il y a un déficit de démocratie. Parce que il y a plusieurs paramètres, il y a plusieurs critères pour évaluer la démocratie dans un pays, et on ne peut pas dire que tous les critères viennent la République démocratique du Congo à zéro. Mais par contre, on peut reconnaître qu'il y a un déficit sur tel plan, tel autre plan. Nous n'avons pas des indices élevés, mais il y a bien sûr des petites entreprises, des petits efforts qui sont en train d'être faits, et qui peuvent, si les efforts continuent, eh bien, relever les niveaux de la démocratie de la RDC. Alors, là aussi, il y a une interpellation, c'est que quand il faut construire un discours sur la démocratie, il faut savoir que le peuple congolais, le petit peuple qui vit au quotidien la situation du pays, la situation politique, la situation des droits de l'homme, le peuple congolais connaît exactement beaucoup de détails, et que donc, un discours redimensionné, est destiné au peuple congolais, destiné à lui faire comprendre qu'en fait, nous sommes sur un long chemin, parce que la démocratie, ce n'est pas en une année ou en 10 ans qu'on la construit, c'est un processus qui doit être construit sur une longue durée. Évidemment, dans sa construction, il y aura des ratés, il y aura également des réussites, mais tout ça fait le jeu démocratique. Et donc, c'est tout cela qu'il fallait relever pour montrer qu'en fait, nous venons de très loin. Nous avons un pays géant, un pays qui a beaucoup de population, qui a beaucoup d'ethnies et qui a trop de problèmes. Et gérer l'ensemble de ces problèmes n'est pas facile. Et surtout s'il faut les gérer dans le cadre d'une démocratie émergente, c'est encore plus compliqué. Donc, il fallait donc construire un discours qui était destiné à montrer que nous avions des problèmes, c'est vrai, nous le reconnaissons, mais nous avions également des difficultés, mais parce que nous sommes des hommes, et parce que nous sommes des Congolais, les Congolais sont des personnes qui sont à mesure de surmonter les obstacles qu'ils rencontrent. Et bien entendu, nous savons que le défi de la démocratie, nous allons le relever. Et c'est donc ce discours-là qui était attendu. Par contre, nous avions là pratiquement un gouvernement congolais qui était à la défensive et qui a voulu passer à l'offensive. Voilà pourquoi il y a eu un écart entre les attentes de la population en termes de discours et ce qui a été présenté par le gouvernement congolais.
Alors, en 30 secondes, pour conclure, professeur, qu'est-ce que aujourd'hui la RDC va gagner en diplomatie en organisant, après avoir organisé ce 14e sommet?
Non, je crois que sur le plan diplomatique, la RDC s'est mise dans une mauvaise position, parce qu'en fait, la RDC n'a pas voulu reconnaître le reproche qui lui a été fait sur le plan des avancées démocratie et sur le plan des droits de l'homme. La RDC a plutôt affirmé que ce qui se passe ici n'a rien
de reprochable. Et de ce point de vue, il s'agit, parce qu'en fait, quand une personne commet les erreurs, elle peut s'élever dire, ok, je reconnais l'erreur, mais je suis conscient que je vais faire des efforts de ne plus reprendre les erreurs. Mais il me semble que ça n'a pas été cela, la position du gouvernement congolais.
Professeur Félicien Kabamba, vous êtes chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Merci d'avoir été des nôtres et surtout merci d'avoir accepté notre invitation pour partager ces près de 57 minutes avec les auditeurs et surtout de nous avoir apporté quelques éclairages par rapport à cette question et à très bientôt.
Merci, merci.
Allô? 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 Mais ils ne répondent pas?
Merci à tous également d'avoir participé à ce débat. Merci à Mimi Kindou. Voilà, je parle de Mimi Kindou. C'est plutôt Jean-Noël Mokondo qui a assuré la mise en onde de cette émission. Titi Poutou et Pierrot et la Meji l'ont réalisé. Et Gilles Lungembo vous l'a présenté sous la supervision de Nicole Ngaka. Écoutez cette émission sur www.radiocapi.net. En Mbujimayi au Kasaï oriental, 2 avocats ont été radiés du barreau et 4 autres suspendus. Ces mesures disciplinaires ont été annoncé par le bâtonnier de ce bureau de ce barreau au cours de l'Assemblée générale ordinaire tenue la semaine dernière. Il leur est reproché le manquement grave à leur profession. Nous en parlons demain dans Parole aux auditeurs. La question au cœur du débat, pensez-vous que ces mesures pourraient contribuer efficacement au processus de réforme de la justice en République démocratique du Congo? Inscrivez-vous déjà pour participer à cette émission et écrivez-nous à pa@radiocapi.net. Vous pouvez également nous appeler au 081 890 63 15. A très bientôt.